La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Michel Favret, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors merci de cette fidélité sur les ondes d'Eau de Radio, puisqu'on va parler de la 60e chronique d'ici quelques secondes. Juste avant, je rappelle que vous êtes animateur à Constellations et Galaxies, qui est une association qui se trouve en Dordogne, il me semble,
voilà,
si je ne me trompe pas.
Dans la région de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan, exactement.
Et si vous voulez bien, on va juste représenter en quelques minutes, hein, parce que je crois que les auditeurs commencent à connaître cette association Constellations des Galaxies. Mais il est bon de rappeler pour nos nouveaux auditeurs qui nous écoutent à ce moment même un petit peu les missions de cette association Constellations des Galaxies.
C'est une association qui est active dans le domaine de la diffusion de la connaissance scientifique, de la culture scientifique au sens large, et plus spécialement dans le domaine de l'espace, de l'astronomie et de l'astronautique. Et disons, une des animations principales de l'association, c'est un planétarium itinérant, donc qui peut se déplacer. Pendant l'année, c'est plutôt dans des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées. En été, ça peut être plutôt des centres de loisirs. Donc une structure gonflable avec un projecteur spécial permettant de voir le ciel comme s'il faisait nuit. Et on peut expliquer les étoiles, les planètes, les constellations et un petit peu tout ça, dont certaines notions qui sont bien sûr dans les programmes scolaires, tout l'intérêt de le faire dans les écoles.
Alors on le rappellera bien sûr, on retrouve toutes ces informations sur votre site internet www.constellationsdesgalaxies.org. Allez Michel, pour cette 60e chronique, j'en ai un petit peu parlé au sommaire tout à l'heure, on va parler de la disparition du premier homme dans l'espace, on parlera bien sûr des femmes aussi dans l'espace, et on finira par le transit. Voilà, vous nous expliquerez ce que c'est. Alors moi j'ai bien potassé bien sûr avant que vous veniez, et puis je me disais la disparition du premier homme dans l'espace, mais je croyais que Gagarine était mort depuis longtemps.
Gagarine.
Alors
effectivement, Yuri Gagarine, premier homme envoyé dans l'espace et avoir effectué la première orbite autour de la Terre le 12 avril 1961, est bien mort depuis longtemps, le 27 mars 1968, dans le crash de l'avion qu'il pilotait à l'âge de seulement 34 ans. Ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est la mort le 11 octobre dernier, d'où l'actualité, à l'âge de 85 ans du premier homme qui est sorti dans l'espace, Alexei Leonov. Lors de la mission Voskhod 2, c'était les nouvelles capsules soviétiques à 3 places pour contrer les programmes américains Gemini à 2 places, le 18 mars 1965, il a réussi la première sortie extravéhiculaire de l'histoire, c'est-à-dire que revêtu d'une combinaison conçue pour lui permettre de survivre dans le vide spatial, il est sorti par un sas gonflable de sa capsule, à laquelle il n'était plus relié que par un cordon, alors que son collègue, Pavel Belyaev, je pense, je ne me suis pas entraîné à le prononcer, avait refermé la porte du vaisseau. Bien entendu, les Soviétiques ont largement communiqué sur cette réussite qui les mettait encore une fois en tête de la course à l'espace. Le premier Américain, Ed White, ne réussissant une sortie spatiale que 2 mois plus tard, dans le cadre de la mission Gemini 4. Cependant, tout ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu pour Leonov.
Alors que s'est-il passé? Il y a eu des problèmes?
Alors effectivement, et pas des moindres. Tout d'abord pour la communication, justement, car si on a des images de la sortie filmée par une caméra fixée à l'extérieur de la cabine, d'ailleurs j'ai envoyé un lien qui permet de le trouver sur Internet, Leonov ne parviendra jamais à déclencher l'appareil photo dont était muni sa combinaison pour nous montrer son exploit. Ce qui aurait pu être beaucoup plus grave, c'est qu'il ne parvient pas vraiment à maîtriser ses mouvements dans l'espace et heurte à 5 reprises la capsule, risquant d'endommager sa combinaison, mais il parvient à amortir les chocs avec ses mains pour éviter surtout de cogner la paroi avec son casque. L'incident le plus dramatique, c'est qu'au moment de rentrer dans le vaisseau, après seulement une douzaine de minutes passées à flotter dans l'espace, il s'aperçoit que sa combinaison s'est dilatée et il ne parvient plus à rentrer dans le sas. En s'énervant, la buée et la sueur à l'intérieur de la combinaison lui brouillent la vue et compliquent encore ses manœuvres. Il tente alors une opération qui n'avait jamais été prévue ni testée auparavant. Il ouvre une valve permettant de faire baisser la pression dans la combinaison à deux reprises, au risque de manquer d'oxygène et de perdre connaissance. Elle descend même jusqu'à un quart de la pression atmosphérique au sol, soit l'équivalent d'une altitude d'à peu près 10 000 mètres plus haut que l'Everest. Cette tentative désespérée réussit et Leonov parvient à rejoindre Belaïev dans le Voskhod 24 minutes après sa sortie. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour autant. Après encore un peu de temps passé en orbite à réaliser quelques expériences et à se reposer, les cosmonautes constatent que le déclenchement automatique de la manœuvre de rentrée atmosphérique ne se produit pas. Ils doivent quitter leur siège afin d'activer manuellement les rétrofusées pour se ralentir, avec 46 secondes de retard, ce qui va déplacer leur zone d'atterrissage prévue de presque 400 km, rejoignant le sol dans une zone inhospitalière de la Sibérie, couverte de forêts, où personne ne les attend. Et quand ils parviendront à s'extraire seuls du vaisseau, ils auront de la neige jusqu'au cou. Mais ce n'est pas tout. Lors du retour sur la Terre, la capsule doit se détacher du reste du vaisseau devenu un poids mort inutile. Mais cette séparation échoue. C'est grâce à l'échauffement intense lors de la rentrée dans l'atmosphère qui fait fondre les câbles reliant les deux parties que la séparation se produit, ce qui sauve l'équipage d'une mort quasi certaine. Mais le soumet brièvement à une accélération intense de l'ordre de 10 G, c'est-à-dire que leur poids est multiplié par 10. Comme on le voit, lors de cette mission, Leonov a échappé deux fois à une fin tragique, ce qui montre à quel point les premières missions spatiales étaient périlleuses et dangereuses, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Mais au final, tout se termine bien pour le Voskhod 2 et Leonov a pu couler encore de nombreux jours.
Alors, qu'est-ce qu'il est devenu après cette mission? Est-ce qu'il est retourné dans l'espace?
Oui, mais il participe tout d'abord aux entraînements pour les vols sur les nouveaux Soyouz dans le cadre du programme lunaire soviétique. Il devait effectuer le premier vol en orbite autour de la Lune, mais on sait que ce sont les Américains d'Apollo 8 qui réaliseront cet exploit en premier à Noël 1968 et qu'avec le succès d'Apollo 11, les Soviétiques renonceront aux missions lunaires habitées. Les années suivantes, Leonov frôle la mort à deux reprises. D'abord en 1969, alors qu'avec d'autres cosmonautes, il participe à une parade dans une limousine décapotable, et un homme, le prenant pour Brejnev, le premier secrétaire du Parti communiste à l'époque, se rue vers la voiture avec une arme et tire, tuant le chauffeur. L'autre fois, c'est à l'occasion de la mission Soyouz 11, vers la station en orbite Salyut 1, pour laquelle il avait été sélectionné. Mais quatre jours avant le lancement, un de ses deux collègues est malade, et leur équipage doit rester au sol, remplacé par trois autres cosmonautes de réserve qui réussissent toute la mission, sauf qu'au moment de se détacher de la station, des valves communiquant avec l'extérieur sont détruites par les dispositifs pyrotechniques qui séparent les deux engins, et ils meurent tous asphyxiés dans l'espace. Finalement, Leonov ne retournera dans l'espace qu'en 1975 comme commandant de la mission Soyouz 19, volet soviétique de la mission commune Apollo-Soyouz, qui doit symboliser la détente dans le domaine spatial entre les deux blocs après la période de la conquête de la Lune par les USA et qui ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'espace avec les missions internationales en orbite terrestre, dont l'aboutissement est l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en attendant une nouvelle époque peut-être avec le retour sur la Lune et le lointain objectif d'une mission vers Mars.
Alors justement, ce sont des femmes qui viennent de sortir de l'USS, de la Station Spatiale Internationale.
Oui, et c'est une première. Mais si on fait un petit historique de la présence des femmes dans l'espace, la première fut Valentina Tereshkova, qui décolla le 16 juin 1963, seulement âgée de 29 ans, seule à bord de la mission Vostok 6, qui restera trois jours en orbite terrestre lors d'un vol conjoint avec Vostok 5. Il semblerait qu'à cause de cette assez longue durée, elle ait été victime du mal de l'espace, que rencontrent la plupart des astronautes au début d'une mission spatiale, le temps que leur corps s'accoutume à l'apesanteur. Encore une fois devancés par les Soviétiques lors du début de la conquête spatiale, les Américains ne se presseront pas pour égaler cette première, et c'est seulement le 18 juin 1983, 20 ans plus tard, presque jour pour jour, que Sally Ride a participé à une mission de la navette spatiale américaine Challenger. Mais elle avait été précédée un an plus tôt, le 19 août 1982, par Svetlana Savitskaya, une autre soviétique qui a décollé avec la mission Soyouz T7 pour rejoindre la station Salyut 7 où elle passera une semaine en orbite. Elle repartira dans l'espace le 17 juillet 1984 pour une nouvelle mission à bord de Salyut 7, à l'occasion de laquelle elle effectuera la première sortie extravéhiculaire réalisée par une femme, environ 19 ans après Leonov. Côté américain, c'est le 11 octobre 1984 que Catherine D. Sullivan réussit la première sortie extravéhiculaire depuis la navette Challenger, lors du vol STS-41, auquel participaient également de nouveaux Sally Ride. La première annoncée bruyamment par la NASA le mois dernier a eu lieu le 18 octobre et consiste en une sortie extravéhiculaire d'un binôme complètement féminin, constitué de Christina Kor et Jessica Meyer, pour remplacer des éléments défectueux gérant la charge des batteries de l'ISS. Le tapage fait autour de cet événement, au fond pas si extraordinaire que ça, vise peut-être à faire oublier le raté d'une première tentative prévue le 29 mars dernier pour un motif ridicule, l'ISS ne disposant pas de deux combinaisons à la bonne taille. Cette sortie était prévue avec Anne McLean et déjà Christina Kor, qui est à bord de l'ISS depuis le 15 mars et devrait battre le record de durée pour une femme avec un séjour prévu de 328 jours. L'histoire du féminisme retiendra peut-être qu'il aura fallu 58 ans de sortie masculine ou mixte, dont 220 rien que pour l'assemblage ou l'entretien de l'ISS, pour en arriver à cette équipe 100% féminine.
Merci pour cette chronique et ce passage. Il faut le rappeler, effectivement, c'est ridicule cette histoire de combinaison.
Voilà, ça a été hallucinant.
Voilà.
Parce que les femmes, bien sûr, sont souvent d'une morphologie un peu plus petite que les hommes et n'ont pas la même taille de combinaison. Et il se trouve que dans la station spatiale, en mars, quand la sortie aurait dû avoir lieu, il n'y avait qu'une seule combinaison à la bonne taille pour les femmes.
Donc je me demande comment c'est possible, vu la préparation en amont au détail près, quand on part dans l'espace, j'imagine, de ne pas prendre une bonne combinaison à la bonne taille. Ça laisse à réfléchir quand même, Michel.
Oui, je crois que... Enfin, si on peut faire une petite parenthèse sur le sujet.
Je crois qu'on se trompe...
Parfois, sur le côté extrêmement rigoureux et très très bien préparé de tout ce qui est mission spatiale. Moi, un exemple que j'aime bien citer, c'est une mission martienne américaine qui a raté. C'était un Polar Orbiter qui s'est écrasé à la surface de Mars. Et quand l'enquête a été faite pour découvrir ce qui s'était passé, on s'est aperçu que tout bêtement, alors que la NASA avait enfin adopté le système métrique et faisait des calculs en kilomètres, par exemple, d'altitude, celui qui avait programmé la descente avait encore compté en miles. Et c'est ça qui a fait que c'est tombé un peu à côté de ce qui était prévu. Et on imagine, enfin moi je trouve hallucinant que effectivement la NASA n'ait pas pu détecter un problème comme ça. Parce que quelqu'un fasse une erreur, il y en a toujours des erreurs humaines dans les processus, mais il doit y avoir des vérifications derrière et des revérifications. Et ben apparemment non. Et je pense que pour les combinaisons, ben, c'est tout bêtement une erreur logistique. Hein. Ils n'ont pas envoyé la combinaison à temps, la deuxième. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que ça puisse se passer dans des agences spatiales qui normalement devraient être extrêmement rigoureuses dans leur travail. Quoi.
Voilà, donc ce qu'on peut retenir, en tout cas 58 ans de sortie masculine ou mixte, et donc il faut attendre 58 ans pour avoir une sortie 100% féminine qui s'est bien passée d'ailleurs.
Oui, pas de souci.
Allez, on va continuer donc sur le transit de Mercure du 11 novembre prochain. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de consacrer le thème central de la chronique à ce phénomène astronomique, parce qu'il est relativement rare. Le précédent a eu lieu le 9 mai 2016, donc c'est pas si vieux, ça fait 3 ans à peu près, 3 ans et demi, et on pouvait théoriquement le voir complètement en France, de bout en bout, sauf qu'il y avait une météo mauvaise sur une bonne partie du pays, et notamment en Aquitaine, avec des averses soutenues, ce qui nous a privés de toute observation jusqu'au dernier quart du spectacle environ. Celui de cette année n'est que partiel, car on ne pourra pas voir la fin. Le prochain sera seulement en novembre 2032, donc dans 13 ans. Il sera également partiel car on ne pourra pas observer le début. Et le suivant sera total, mais il faudra patienter 20 ans jusqu'en novembre 2039. Et encore, il sera bien moins long car Mercure passera beaucoup plus près du bord du limbe solaire. Donc vous voyez, c'est un phénomène qui est quand même relativement rare, d'où l'intérêt si on peut l'observer. Pour commencer, voilà de quoi il s'agit. Du fait de leur révolution plus rapide autour du Soleil, les planètes intérieures, donc c'est Mercure et Vénus, qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil, sont amenées à passer parfois entre nous et le Soleil. Et c'est ce qu'on appelle un transit. On peut alors voir le petit point noir de la planète, vu en contre-jour, traverser lentement le limbe solaire. On pourrait croire que cela se produit très souvent, mais ce n'est pas le cas à cause des inclinaisons des orbites des planètes les unes par rapport aux autres. Il faut donc des positions bien précises sur les orbites pour qu'un alignement Soleil-planète-Terre se produise. Pour Vénus, c'est encore bien plus rare que pour Mercure, car il n'y en a que deux tous les 120 à 130 ans environ. Il y en a eu un en 2004, puis un autre en 2012, mais le prochain ne sera qu'en 2117. Pour Mercure, c'est plus fréquent, comme on vient de voir, mais il faut tenir compte aussi de l'endroit où se trouve sur la Terre, car par exemple en France, cela peut avoir lieu alors que le Soleil n'est pas levé pour nous, et ce seront les Américains ou les Chinois qui pourront le voir. J'espère donc que cette rareté incitera nos auditeurs à essayer d'observer cet événement, Car même s'il n'est pas un spectacle d'une beauté exceptionnelle, hein, c'est juste un petit point noir qui se balade devant le Soleil, cela permet d'observer directement des objets du système solaire et leur mouvement sur quelques heures. Quand on verra le petit disque noir de Mercure devant le LAM solaire, on pourra se rendre compte à quel point les planètes sont petites par rapport à lui. Avec le jeu des distances respectives, un Mercure étant environ à 2/3 de la distance qui nous sépare du Soleil, ce petit point noir sera environ 150 fois plus petit que le Soleil. Comme le diamètre de la Terre est d'environ 1/100 de celui du Soleil, 1/109 si on veut être précis, on pourra donc se représenter la Terre comme un petit disque d'à peu près 1,5 fois plus gros que Mercure.
Que le point noir de
Mercure. Que le petit point noir de Mercure. Hein, on verra à quel point c'est vraiment minuscule par rapport au Soleil. On peut aussi observer le mouvement de Mercure qui passera très lentement devant le Soleil. Il faudra à peu près 5h30. Ce qui permet d'ailleurs de calculer à peu près sa vitesse sur son orbite, qui est d'environ 42 km/s, soit 170 000 km à l'heure. Pour la Terre, c'est dans les 100 000 km à l'heure qu'on avance sur notre orbite. J'ai l'habitude d'expliquer que c'est à peu près 10 fois la vitesse d'une balle de fusil.
Très bien.
Il faut juste espérer que la météo sera clémente, avec un ciel dégagé au maximum, mais c'est sûr que ce n'est pas en novembre que c'est le plus courant dans la région.
Alors comment s'y prendre en pratique pour réaliser cette observation, Michel ?
Alors bien sûr, il faudra commencer par se mettre dans un lieu assez dégagé pour avoir une vision directe du Soleil, et surtout au sud et à l'ouest si on veut suivre l'événement de bout en bout. On a une large plage horaire car le phénomène commencera vers 13h30 et l'observation se terminera avec le coucher du Soleil vers 17h30, alors que Mercure mettra encore 1h30 de plus avant de sortir du limbe, ce qu'on ne pourrait voir qu'en étant situé beaucoup plus à l'ouest, par exemple du côté des îles Canaries. Comme c'est un jour férié pour la plupart, le lundi 11 novembre, on pourra donc l'observer pendant toute l'après-midi, mais aussi bien en soirée, après une journée de travail, si on n'a pas la chance d'être en congé. Dans l'idéal, comme le mouvement de Mercure est très lent, il faudrait l'observer à plusieurs reprises pour voir un changement de position. Maintenant, le point le plus important, ce sont les précautions à prendre, car comme pour les éclipses, il s'agit d'observer le disque solaire, ce qui peut être très dangereux pour les yeux. Le principe est simple, il ne faut jamais observer directement le Soleil, que ce soit à l'œil nu ou avec n'importe quel instrument, jumelles, lunettes astronomiques, télescopes ou même appareil photo. Le risque est énorme car on peut se brûler la rétine et devenir aveugle.
Alors quelles sont les précautions indispensables à prendre ?
Alors les précautions à prendre sont bien connues des astronomes et des associations d'astronomes amateurs qui accueilleront sans doute le public pour réaliser cette observation avec eux, en toute sécurité, avec des instruments bien adaptés pour avoir une belle vue de l'événement. Alors je conseille d'aller voir par exemple sur le site de l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui liste les lieux où ce sera organisé. Je l'ai consulté ces derniers jours et pour la région de Bordeaux, il y a nos amis d'AG33, Astronomie Gironde 33, sur le site de SOCATS, et la SAB, la Société astronomique de Bordeaux, au Parc Bordelais. Mais il se peut que d'autres clubs ne se soient pas encore inscrits sur le site de l'AFA. J'invite donc les auditeurs à se rapprocher de ces associations pour en savoir plus. Alors concernant AG33, qu'on invite de temps en temps ici pour parler de leurs animations, voilà. Et surtout Corinne, parce que je crois qu'elle n'est toujours pas remise de son petit problème de santé. Elle a fait une mauvaise chute là, en juillet. Elle n'a pas pu venir ni envoyer quelqu'un de l'association, mais elle m'a fait un petit mail hier. Donc juste pour préciser un peu mieux, l'animation se passera sur le pré-communal de SOCATS le lundi 11 novembre. De 13h30 à 17h30. Alors bien sûr, ils proposeront l'observation solaire si le temps le permet, et des techniques d'imagerie, donc des prises de photos du phénomène. Mais s'il ne fait pas beau, ils ont prévu un repli sous tente où ils projetteront sur écran le transit vu d'ailleurs via Internet. Il y aura sûrement des sites qui diffuseront ça. Et au pire, ils utiliseront une simulation. Ils vont proposer aussi un jeu solaire avec une paire de lunettes à éclipse en cadeau pour chaque participant. Et il y aura aussi une petite exposition de photos d'astronomie. Voilà. Donc même s'il ne fait pas beau,
il y aura quelque chose
à voir à SOCATS.
Peut-être rappeler où c'est SOCATS, parce que tout le monde ne connaît pas.
Alors c'est une bonne question. C'est un peu au sud de Bordeaux, en fait, quand on prend... Alors je ne sais jamais, je confonds toujours entre la 62 et la 64, ça doit être... c'est l'autoroute vers Toulouse, ça doit être la 62. En fait, il faut sortir au niveau de la Brède, et c'est un petit peu à l'ouest de la Brède.
D'accord, très bien. Bon, j'invite les personnes à regarder.
Ça se trouve facilement.
Oui, c'est pas très loin, quoi.
Non, même moi, j'ai réussi à y aller plusieurs fois, donc ça doit se trouver facilement.
C'est à une demi-heure de Bordeaux, dans le sud. Voilà.
Oh oui, maximum une demi-heure, parce que moi, ça me paraît pas bien loin de Bordeaux. Mais enfin, vu de la Dordogne.
Oui, vu de la Dordogne.
Alors, si on veut essayer d'observer le phénomène de son côté, il n'y a que deux solutions pour le faire en toute sécurité. Soit il faut utiliser des filtres solaires très puissants qui ne laissent passer qu'une toute petite partie de la lumière du soleil, de l'ordre de 1/100 millième. Et ce genre de filtres, on peut les trouver dans des boutiques spécialisées comme Astronomie Espace Optique, qui est barrière de Pessac à Bordeaux. Soit il faut réaliser une observation indirecte en projetant l'image du soleil. Pour ce qui est des filtres, les plus connus sont les lunettes spéciales Eclipse. Mais même si on en a, elles ne serviront à rien, car le petit point de Mercure devant le soleil ne peut pas être vu à l'œil nu. Il est trop petit. On peut toujours essayer, hein, moi mais je pense qu'il faudrait vraiment une acuité visuelle exceptionnelle pour voir quelque chose. Et si on veut utiliser un instrument grossissant, comme des jumelles ou une lunette, il faut vraiment s'y connaître pour les équiper avec les filtres adaptés qui permettront d'éviter tout risque pour les yeux. Donc c'est plutôt réservé aux astronomes ou aux observateurs avertis, et je déconseille plutôt cette solution aux gens qui n'y connaissent rien, et je leur recommande plutôt d'utiliser la projection de l'image du soleil. Le principe en est simple. En faisant passer la lunette ou l'une des deux lentilles frontales d'une paire de jumelles au travers d'un carton opaque, on crée sur le sol ou sur un mur une ombre dans laquelle viendra se projeter l'image du soleil passant au travers de l'instrument, avec une taille et une netteté qu'on peut régler jusqu'à voir le petit point noir de Mercure, d'autant mieux si on la projette sur une surface blanche, hein, comme du papier ou un carton blanc, ce qui augmente sa luminosité. Mais attention, je le répète, il ne faut jamais regarder directement dans l'instrument braqué en direction du soleil. Donc la difficulté, c'est de viser le soleil sans le regarder. Mais avec un peu d'entraînement, et il reste du temps pour le faire, on verra qu'il est assez facile, en se tenant dos au soleil, donc sans aucun risque pour sa vue, de pointer l'instrument de façon à ce qu'il ne fasse plus d'ombre visible autour de lui. Et ça veut dire à ce moment-là qu'il est pointé dans la direction du soleil. Puis on jouera sur l'orientation de façon à amener l'image projetée du soleil, un petit disque lumineux, sur le sol ou le mur, à l'endroit où on veut l'observer. Bien sûr, il est difficile d'expliquer tout ça de manière claire et imagée à la radio, mais comme en 2016, je vais mettre en ligne dans les jours prochains sur notre site web une page spéciale pour expliquer comment s'y prendre avec des photos pour l'illustrer et pas mal de conseils. Il suffit d'avoir une paire de jumelles et un bout de carton.
Ah, on rappelle ce site internet qui est www.constellationsdesgalaxies.org. On relaiera bien sûr l'information, si vous voulez bien, Michel, sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, O2 Radio. Je voulais savoir, Michel, est-ce que ces phénomènes sont aussi observés par les astronomes professionnels?
Alors oui, car cela permet toujours de recueillir de nouvelles données sur notre système solaire. Par exemple, même si on considère que Mercure n'a pas réellement d'atmosphère, elle possède une enveloppe gazeuse très ténue dont on peut mesurer la composition en analysant comment elle affecte le spectre de la lumière solaire qui la traverse. À titre d'illustration, on peut aller voir sur le site de l'APOD, c'est Astronomy Picture of the Day, un site de la NASA qui publie une belle image d'astronomie chaque jour, la vidéo qui a été mise en ligne le 21 octobre et montre le transit de 2016 filmé en gros plan et dans différentes longueurs d'onde par le satellite d'observation du Soleil SDO, Solar Dynamic Observatory. Les transits avaient un intérêt scientifique crucial dans un passé plus lointain, car si on l'observait depuis des points très éloignés sur Terre, par exemple en Inde, en Europe et en Amérique, en mesurant très précisément le petit écart de temps dû au décalage des observateurs, on pouvait, si je peux dire par triangulation, pour faire simple, calculer avec une bonne précision les distances Soleil-Terre et aussi des planètes intérieures avec le Soleil. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Et on peut l'illustrer de manière très simple avec nos auditeurs en leur proposant une toute petite expérience. Bras tendus et pouces levés, ils ferment un œil en alignant leurs pouces pile sur un repère assez éloigné, comme une lampe ou un objet à l'autre bout de la pièce, ou même par la fenêtre, un lampadaire, une fenêtre du voisinage ou un bâtiment lointain. Une fois que c'est fait, et sans bouger le bras, on referme l'œil ouvert pour ouvrir l'autre. Pour cela, et on voit que le pouce n'est plus du tout aligné avec le repère lointain. Pour cela, il faut pivoter le bras d'un certain angle. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. On peut comprendre que si on mesure précisément cet angle, avec un peu de calcul trigonométrique et la connaissance de la largeur entre nos yeux, on pourrait calculer la hauteur du triangle qu'il forme avec le pouce et donc la longueur de notre bras. Si on transpose cette petite expérience à l'échelle astronomique, les deux yeux sont les deux observateurs placés à des endroits très éloignés sur Terre, donc au maximum dans les 12 000 km, ou encore mieux, la Terre a deux positions de son orbite à 6 mois d'intervalle, soit dans les 300 millions de kilomètres d'écart. Le pouce serait l'objet dont on veut mesurer la distance, et le repère lointain, un objet astronomique beaucoup plus éloigné, par exemple une étoile si on veut mesurer une planète, ou une galaxie si on veut mesurer pour une étoile. Dans le cas d'un transit, c'est un peu différent. Ce n'est pas tant un angle qu'on mesure qu'un écart de temps. Supposons que le repère lointain soit le Soleil, ou plus exactement le bord du Soleil, et que notre pouce figure Mercure ou Vénus lors d'un transit, donc en déplacement. Alors l'un des yeux le verra passer devant le repère avant l'autre, et ce petit écart, avec la distance entre nos yeux et un peu de trigonométrie toujours, permettra aussi de calculer la distance. Ainsi, au XVIIIe siècle, on essayait d'utiliser les transits, et notamment ceux de Vénus, pour calculer les distances dans le système solaire, la distance Terre-Soleil ou Terre-Vénus, en envoyant des observateurs en des points très éloignés sur Terre. Mais comme la météo n'était pas toujours bonne, cela pouvait leur valoir quelques déboires, et je pense notamment à Guillaume le Gentil, que je ne manque jamais d'évoquer quand quelques nuages nous empêchent une observation assez rare pour relativiser, car cela reste peu de choses en comparaison de ce qui lui est arrivé.
Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Guillaume le Gentil ?
Alors, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste le Gentil de la Galésière, hein, si on veut donner son titre complet, était un astronome français du XVIIIe qui s'est lancé dans l'aventure de vouloir observer le transit de Vénus de 1761 en Inde, pendant que d'autres le feraient en Europe ou aux Amériques. Tous équipés d'horloges très précises pour mesurer les petits écarts de temps, comme je viens d'expliquer. Alors, il faut imaginer le Gentil voyageant en voilier, car bien sûr, à l'époque, il n'y avait ni moteur ni d'avion, hein, bien sûr, en contournant toute l'Afrique, car le canal de Suez n'avait pas encore été percé non plus, ce qui prenait des mois. Il arrive bien en vue de Pondichéry, le comptoir français installé en Inde, mais entre-temps, la guerre a éclaté entre la France et l'Angleterre, hein, qui possédait l'Inde, ce qui l'empêche d'y accoster. Il essaie d'observer le transit du 6 juin 1761 depuis le bateau, mais les mouvements empêchent toute mesure précise. Du coup, il décide d'attendre le prochain transit 8 ans plus tard. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, les transits de Vénus sont très rares et obéissent à un cycle bizarre du fait des inclinaisons différentes des orbites. Il n'y en a aucun pendant plus de 100 ans, puis il y en a deux qui succèdent à seulement 8 ans d'intervalle. Le Gentil a raison d'attendre car les choses se calment entre les deux nations. Il peut s'installer à Pondichéry en 1768, construit un petit observatoire et tous les jours précédant le transit, il vérifie qu'il est fin prêt avec une météo idéale. Mais le jour J, le 3 juin 1769, le ciel est couvert de nuages et il ne peut rien faire. C'est donc bredouille qu'il revient en France, toujours en voilier, avec de nombreuses péripéties qui retardent son retour à une grave maladie, une tempête où il échappe de peu à un naufrage, mais doit attendre des mois qu'un navire vienne le récupérer sur l'île Bourbon, qu'on appelle aujourd'hui la Réunion. Bref, il rentre en France plus de 11 ans après son départ. Et il n'est pas au bout de son malheur et de ses surprises, car comme aucune de ses lettres n'est parvenue jusqu'ici, du fait de naufrages ou de piraterie des bateaux qui les transportaient, tout le monde le croit mort. On l'avait remplacé à l'Observatoire Royal de Paris, mais pas seulement, parce que sa femme s'était remariée, ses héritiers avaient partagé ses biens, et il était donc complètement ruiné. Quand on pense à son histoire, on peut donc trouver que de rater une éclipse ou un transit à cause de quelques nuages, ce n'est peut-être pas si grave.
Bien sûr, donc on rappelle que le 11 novembre, il est possible de voir un transit. À quelle heure, Michel ?
Ben, j'ai dit, ça dure de, en gros 13h30 à 17h30.
13h à 17h30, on l'a dit, mais c'est bien de le répéter aussi. Hein. Donc ne faites pas comme Guillaume le Gentil, on ne le rate pas. Pas besoin de prendre de risques non plus. Hein. Voilà,
Faire très très attention, hein. On ne dira jamais assez à quel point c'est dangereux d'observer le soleil. On n'observe jamais le soleil, même rien qu'à l'œil nu, c'est dangereux. Alors avec une lentille, hein, n'importe quoi, un viseur d'appareil photo ou une paire de jumelles. Je pense que les auditeurs ont peut-être déjà fait, dans leur jeunesse, l'expérience avec une loupe de concentrer la lumière du soleil sur une feuille de papier ou une feuille morte, et on arrive à lui faire prendre feu. Mais il se passe exactement la même chose dans notre œil si on observe le soleil avec un instrument grossissant. Donc on peut mettre, entre guillemets, le feu à notre rétine, et là, c'est irréversible, on ne guérira jamais, on peut être complètement aveugle, juste par une observation du soleil.
Donc c'est bien toujours de le rappeler, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des associations comme l'AFA, qui organisent justement des journées comme ça pour observer le ciel, mais...
avec les bons équipements.
Avec les bons équipements, voilà, merci Michel. Allez, on va passer, pour terminer cette chronique, au ciel du mois.
Alors comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs encore une fois sur notre site web, avec la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie hein, » du site, pour voir les cartes du ciel et avoir plus de détails. C'est difficile de montrer des cartes à la radio. Donc avec le retour à l'heure d'hiver dimanche dernier, les horaires du soleil ont complètement changé. Ces jours-ci, le soleil se couche à peu près un peu avant 18h et la nuit survient vers 19h, mais il faut encore attendre jusqu'à 19h30 pour un ciel bien noir. À la fin novembre, la journée sera encore plus courte et le coucher sera à 17h20, la nuit viendra vers 18h30 et le ciel bien noir vers 19h. Même si certains se plaignent souvent du froid, je rappelle à nos auditeurs que l'hiver, et même déjà en novembre, est favorable aux observations astronomiques, car on peut commencer beaucoup plus tôt le soir, 19h au lieu de 23h en plein été. et que du fait d'une atmosphère plus froide, donc moins turbulente, les images sont plus stables, aussi bien à l'œil nu, où les étoiles scintillent moins, que dans un télescope, où les visions sont plus belles. De ce point de vue, dans la polémique sur l'arrêt des changements d'heure et le choix entre celle d'été ou celle d'hiver, il est clair que celle d'hiver aurait la préférence des astronomes, d'autant qu'elle est plus naturelle, car plus proche de l'heure solaire. En ce moment, du fait de la position très à l'ouest de la France, dans l'Europe, où nous partageons tous une heure commune, nous avons une heure d'avance sur le soleil. C'est-à-dire que nos montres indiquent 13 heures quand il est en réalité midi, le soleil passant au sud, au plus haut dans le ciel de la journée. En été, c'est 2 heures d'avance que nous avons. Mais si je reviens au ciel nocturne, en début de nuit, le ciel d'été occupe encore toute la moitié ouest du ciel, avec le triangle de l'été formé des 3 étoiles brillantes Altair, Vega et Deneb, bien haut dans le ciel, surmontant une autre constellation typique de cette saison située plus près de l'horizon, le Sagittaire, reconnaissable à un motif en forme de théière, accompagné de Saturne, et vers le sud-ouest, la très brillante Jupiter qui va se coucher rapidement. Et sous un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse des villes, on peut aussi voir la Voie lactée qui se dresse presque verticalement depuis l'horizon sud-ouest. La moitié est du ciel héberge les constellations typiques du ciel de l'automne, notamment Pégase, formant un motif carré, prolongé d'Andromède, dans laquelle on peut déceler la galaxie la plus proche de nous, objet le plus lointain perceptible à l'œil nu et facile à observer aux jumelles. Fin novembre, tout sera un peu décalé vers l'ouest, avec en début de nuit le triangle de l'été au sud-ouest, Jupiter presque à l'horizon sur le point de se coucher, Saturne déjà bien basse et le Sagittaire en train de se coucher, alors que Pégase arrive presque au sud et bien plus haut dans le ciel, laissant apparaître toutes les autres constellations de l'automne, les poissons, la baleine, le triangle et le bélier notamment. Et à l'est, ce seront même déjà les constellations de l'hiver qui se lèveront comme le taureau et le cocher. Côté planète, vers le sud-ouest, on peut actuellement encore voir la brillante Jupiter, mais dans de très mauvaises conditions d'observation, avant son coucher, très tôt, un peu après 20 heures en ce moment. Saturne est observable dans de meilleures conditions, bien que basse, et ne se couche que vers 22 heures. Fin novembre, Jupiter sera déjà presque couché en début de nuit, et Saturne déjà très basse, se couchant dès 20 heures. Donc de mauvaises conditions pour observer ces planètes. Depuis quelques jours, on peut voir Vénus réapparaître dans les lueurs du crépuscule, ainsi que Mercure, qui est plus difficile à observer. Et comme Vénus s'éloigne progressivement du Soleil, on pourra l'observer de mieux en mieux au fil des semaines, et de plus en plus tard. Fin novembre, Vénus se couchera vers 19 heures. Comme chaque mois, il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec les planètes, à commencer par demain, où le croissant de Lune sera très proche de Jupiter. Si le ciel est dégagé, on peut même tenter d'observer en plein jour, par exemple dans des jumelles, alors toujours pareil, hein, ne jamais viser côté Soleil, quand l'écart entre la Lune et Jupiter sera le plus faible, ce sera vers 15h30, le petit point de la brillante planète étant juste sous l'extrémité sud du fin croissant de Lune. Le samedi 2 novembre, le croissant plus gros se rapproche de Saturne dans le ciel, environ la largeur de 2 doigts bras tendus. Ensuite, il faudra patienter jusqu'au dimanche 24 pour observer dans le crépuscule un rapprochement très serré entre les 2 planètes les plus brillantes, Vénus et Jupiter. Si on a une bonne météo pour observer ces planètes le soir quelques jours avant et après cette date, on constatera que Vénus croise en fait Jupiter dans son éloignement progressif du Soleil. En décembre, cela se reproduira, mais cette fois avec Saturne. Et enfin, le jeudi 28 novembre, un fin croissant de Lune occultera Jupiter, c'est-à-dire qu'elle passera devant en masquant complètement la planète. Malheureusement, l'occultation de la planète aura lieu vers 10h19 le matin, alors que la Lune viendra à peine de se lever, donc trop bas à l'horizon sud-est pour espérer le voir, à peine 1 degré de hauteur. Mais si le ciel est clair, nous aurons tout le temps d'essayer de repérer aux jumelles le fin croissant, ce qui est assez difficile en plein jour, car Jupiter n'émergera à l'ouest, donc à droite de la Lune, que vers 11h23, suivi par le chapelet de ses 4 principaux satellites qui apparaîtront un par un en environ 10 minutes. Plus tard dans la soirée, pendant le crépuscule, le même croissant de Lune sera entre Jupiter et Vénus, un peu plus proche de celle-ci. Et le lendemain, vendredi 29, elle sera de nouveau proche de Saturne, environ la largeur de deux doigts, bras tendus. Ce mois de novembre sera donc idéal pour observer le balai des planètes et de la Lune dans le ciel, avec bien entendu le transit de Mercure du lundi 11 novembre dont nous avons largement parlé plus tôt dans la chronique. Notre prochain rendez-vous sera en principe le mercredi 27 novembre, juste la veille de l'occultation de Jupiter par la Lune, que je ne manquerai pas de vous rappeler, surtout si la météo est annoncée favorable.
Michel Favret, merci. Je vous rappelle que vous êtes animateur pour l'association Constellations des Galaxies, que vous venez bien sûr régulièrement sur les ondes d'Ode Radio à raison d'une fois par mois le dernier mercredi du mois. Donc la prochaine chronique, la 61e, si je ne me trompe pas, le mercredi 27 novembre. J'imagine que vous y réfléchissez déjà et que vous avez déjà même peut-être votre thématique pour ce prochain mercredi.
Eh ben non, en général. Pas encore. Non, parce que j'attends un peu sur l'actualité du mois pour voir un thème en rapport avec l'actualité du mois. Donc là, le transit, c'était évident. Mais d'un mois sur l'autre, il peut y avoir peut-être quelque chose dans la conquête spatiale qui serait intéressant à développer à travers d'un sujet. Un petit rappel concernant notre site web, c'est qu'on peut réécouter les chroniques sur notre site web. Parce que dans la partie astronomie du site, il y a le ciel du mois dont je viens de parler. Mais il y a aussi toutes les chroniques audio radio depuis la première, on peut les réécouter. Et comme la liste indique un peu de quoi on parle, on peut choisir sa thématique pour les auditeurs que ça intéresserait.
Voilà, on peut même réécouter des anciennes chroniques. Hein,
voilà, qui remontent à 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on fait ces chroniques.
5 ans, Michel, merci de cette fidélité, en tout cas sur les ondes d'audio radio. Merci à vous.